Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Chercher à remonter aux origines multiples des dysfonctionnements du système éducatif pour en saisir le sens. Pointer en particulier les rapports entre les pouvoirs et les savoirs au sein de l'institution, qui constituent un envers du décor aussi important que la question des moyens. Montrer néanmoins que l'essentiel n'est pas là, mais dans la mutation anthropologique des apprenants, dont le symptôme le plus apparent est une crise de l'autorité. Enfin, pour l'école qui transmet des savoirs, constater une mutation de la structure psychique de l'apprenant. Autant de constats qui doivent conduire à repenser l'école tout autrement. Un changement de paradigme, une rupture épistémologique s'impose. C'est la thèse développée par Patrick Cosse dans son ouvrage « Choc, l'éducation face à l'impossible, repenser les fondements de l'école » paru aux éditions Delga. Bonjour Patrick Cosse.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Parole d'auteur. Une première question par rapport à ce titre, « L'éducation face à l'impossible ». Vous pensez faire des rapprochements avec « Impossible n'est pas français » ou simplement peut-être par rapport à une phrase de Victor Hugo dans « Les Misérables » qui dit « Rien n'est plus imminent que l'impossible ».
La question est d'emblée est une question choc, celle de la question de l'impossible. Au-delà de la formule littéraire, l'impossible, il y a toujours de l'impossible dans nos rapports à la vie au réel. Hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui est au-delà de ce que l'on peut, de la possibilité. Voilà. Dans la psychanalyse, il y a Lacan qui définit le réel tout au long de son parcours, même s'il le déplace, le réel comme impossible. Donc ça signifie qu'il y a toujours une question entre un être humain et la réalité, qui est quelque part une disjonction et un ajustement avec le réel qui comporte toujours une part d'impossible. Sauf que là, dans la situation dont nous allons parler, les difficultés augmentées de ce rapport entre l'apprentissage et la façon dont il y répond, on va dire que c'est une sorte de doublement de l'impossible.
Hein. Voilà, alors c'est une manière de voir les choses, effectivement. A priori, quand vous dites qu'il y a toujours quelque chose qui est impossible ou qui est perçu comme tel, a contrario, on peut imaginer que c'est pareil pour le possible. Mais on verra ça. Alors, Patrick Cosse, vous avez écrit cet ouvrage. On comprend que vous ne l'avez pas écrit par hasard. Je vais donner un petit résumé de votre parcours pour les auditeurs. Donc, vous avez exercé plusieurs métiers et missions à l'éducation nationale, l'école normale d'instituteurs, CEP en zone sensible, professeur de philosophie, personnel de direction, en lycée, en zone rurale et en ville, et je crois même que vous avez été instituteur. Vous avez été également délégué académique à l'action culturelle, conseiller technique du recteur. Vous avez eu en charge la formation des CPE, des personnels de direction, des agents comptables, des coordinateurs culture dans les domaines de la santé, de la citoyenneté et de l'orientation. Tout ça pour bien faire comprendre à nos auditeurs que vous avez eu une carrière très, très diversifiée, vous avez exercé des métiers très variés et on peut dire que vous êtes un homme du terrain, un homme du terrain de la maison Éducation nationale. À l'heure actuelle, vous êtes donc à la retraite, très actif. Vous êtes chroniqueur dans une radio que nous connaissons bien et qui s'appelle Radio Présence. Et vous donnez des conférences à l'Université populaire de philosophie de Toulouse sur Gilles Deleuze. Alors, Patrick Cosse, ce livre, c'est un coup de colère, un cri de cœur. Pourquoi vous l'avez écrit maintenant ?
Vous avez indiqué que j'avais parcouru plusieurs situations dans la grande maison de l'éducation nationale. Et au fil des années, je pense avoir observé une dégradation de la situation. Des jeunes qui sont en situation où ils ne sont pas placés en position de pouvoir progresser. Et donc, par conséquent, il y a un problème dans l'éducation qui s'accroît. Alors, ayant eu ce parcours de plus de 40 années avec ces différentes activités qui ont été les miennes, j'aurais envie de dire que ce problème qui s'est aggravé, qui s'est approfondi, a soulevé dans un effet d'après-coup, tout le long, mais on va dire que la disponibilité d'un retraité me permet de me donner une autre perspective, d'avoir dans cet après-coup une réflexion de type éthique par rapport à la responsabilité qui a été la mienne pendant tout ce parcours. Et au-delà de l'éthique, et ça fait partie d'une des intentions de ce livre, essayer d'interpréter ce qui dysfonctionne, essayer de donner des alternatives à ce dysfonctionnement, et cela en faisant passer des messages qui délibérément sont des messages politiques. Donc, autrement dit, ce qui est un peu au fond de cette intention, il y a une intention éthique, mais qui est traduite en un message que j'espère un message politique, en souhaitant qu'il soit entendu, bien sûr, et il soit aussi entendu par des décideurs.
Alors vous pointez très rapidement, dès le début du livre, un certain nombre de problématiques. Vous pointez du doigt les 50 ans de réformisme à répétition que vous qualifiez de bricolage. Vous mettez le doigt sur le constat de classement de la France au 23e rang PISA. Vous donnez un certain nombre d'éléments sur la baisse de niveau avéré. Et vous posez la question, franchement, en disant pourquoi la réforme ne change rien. Et dans les pistes que vous abordez, la première, c'est celle de l'analyse des pouvoirs au sein de cette grande maison. Vous dites que les pouvoirs masquent les problèmes et qu'il faut donc les démasquer. Alors, quels sont-ils, ces pouvoirs, et comment faire pour les démasquer ?
Avant de répondre directement à la question du sens des pouvoirs et pourquoi je les ai abordés et que j'aurais donné une telle importance pour comprendre, je voudrais dire que je suis attaché dans ce que j'ai fait à la dimension d'expérience, effectivement, qui a été la mienne, rencontrer les situations. Ça développe des formes de perception en situation. Et donc ça fait partie d'une des sources, d'une des références dans laquelle j'ai pu faire ce travail. Mais au demeurant, bien que c'est un parcours pratique, ça n'est pas du tout une perspective qui serait descriptive, biographique. C'est une analyse des situations, mais c'est une analyse intellectuelle, c'est une analyse conceptuelle des situations qui se réfèrent à des textes, à des concepts philosophiques, de sociologie, de linguistique, etc. Donc c'est vraiment un travail d'analyse. Alors maintenant, pourquoi avoir traité de la question des pouvoirs ? Là aussi, une précaution, critiquer les pouvoirs, chez les intellectuels, c'est quelque chose qui a été fait et refait, en particulier dans les années, des années 60 aux années 90. Donc c'est un peu galvaudé quasiment par rapport à la méthode. Mais bon, au demeurant, les pouvoirs, ça permet de travailler sur la manière dont on aborde les apprenants, dont on aborde les élèves. Les pouvoirs, ils sont faits de représentations, ils sont faits de statuts, de comportements, de hiérarchie, etc. Et c'est cet ensemble-là qui fait l'architecture de la manière dont le réel, dont on verra s'il est impossible plus tard, des apprenants est abordé. Mais là aussi, je voudrais ne pas donner une définition du pouvoir qui soit trop polarisée sur un pouvoir qui serait celui de l'autorité hiérarchique de l'État. La conception que j'ai développée du pouvoir est multipolaire. Et pour en donner une illustration, il y a une chaîne hiérarchique, mais dans la façon dont les acteurs eux-mêmes sont susceptibles, par des effets de servitude volontaire ou de disposition à reproduire en quelque sorte les formations de pouvoir, ils sont aussi les courroies de transmission de ces formations de pouvoir. Donc on va les trouver, ces pouvoirs, autant dans la salle des professeurs, on va les trouver autant dans les comportements et les positions de certains élèves dans la classe, dans des postures des enseignants, dans la hiérarchie. Et donc, pour comprendre les formations de pouvoir, il faut admettre qu'on est dans un agencement complexe et que par conséquent, pour en faire l'analyse, il faut passer par ces différentes strates du pouvoir, essayer de les associer les unes par rapport aux autres, de telle manière à ce que, de micro-analyse en micro-analyse de chacune de ces situations de pouvoir, on gagne une lucidité de la compréhension de l'ensemble du système. Alors, pour donner un étayage un peu intellectuel, j'ai annoncé que c'était un travail conceptuel, ça s'inscrit quelque peu dans la foulée du travail que Michel Foucault avait fait. Et je m'en explique, si vous voulez, très simplement. C'est pas une théorie sur le pouvoir, c'est davantage le travail, je vais être un peu prosaïque, le travail de mécanicien par rapport à un système. C'est-à-dire qu'il s'agit de s'y prendre pour essayer de voir comment ça fonctionne, un système, par ses formations de pouvoir. Et donc c'est comme une sorte de démontage du moteur, pour le coup. Le démontage du moteur permet de se rendre compte les phénomènes de reproduction interne qu'il y a dans le pouvoir, parce qu'il y a, pour toute forme de pouvoir, il y a des techniques internes, il y a des discours qui les constituent. Et donc, quels que soient les effets de réel, les mutations du réel, ces phénomènes de répétition, de reproduction interne sont susceptibles d'être désajustés vis-à-vis des problèmes qui se posent. Et là, vous y faisiez allusion, je faisais état d'un réformisme qui avait développé des propositions qui n'avaient pas permis de progresser et d'avancer depuis 50 ans. Une des raisons, précisément, c'est les dimensions de reproduction et de répétition interne au pouvoir qui ne sont pas ajustées, adaptées à ces évolutions de réel. Donc il faut critiquer ce réformisme, déconstruire ces formations de pouvoir de telle manière à pouvoir aborder le réel sous une autre perspective. Voilà. Donc j'ai eu besoin de dévoiler, vous avez parlé de démasquer le pouvoir, j'aurais envie de dire de dévoiler les formations de pouvoir, lever le voile, de telle manière à toucher au réel dans une perception, une appréhension qui soit différente. Et c'est donc déjà cela, la méthode des deux premières parties, les pouvoirs et ouvrir une autre perspective.
D'accord. Alors... Par rapport à cette analyse, effectivement, vous dites lever le voile. Et quand on lève le voile, on s'aperçoit, on fait des constatations qui pourraient, quelque part, être assez communes à tout type d'organisation. Alors, en particulier, vous dites que ces pouvoirs ont une tendance à la sédimentation. Vous avez des formules très, très évocatrices en disant qu'il y a des micro-pouvoirs à tous les étages dont vous avez expliqué un petit peu l'existence. Et vous parlez aussi, dans un cadre plus général, d'une remise en cause du pilotage à la française. Alors, qu'est-ce que c'est que le pilotage à la française à l'éducation nationale ?
Alors, je crois que il y aurait plusieurs manières de rentrer sur l'explication de ce pilotage. Mais je crois qu'il y a deux vecteurs de ce pilotage. D'autres, mais enfin, je vais m'arrêter à deux qui ont une importance considérable. Le premier, c'est de concevoir la dimension de l'égalité selon une conception universaliste qui nous vient en France de la Révolution française, de la Déclaration des droits de l'homme. C'est une profession de foi. Hein. L'égalité, dans la réalité, ça n'existe pas en tant que tel. Nous sommes tous différents. Il y en a qui ont des puissances de vivre et des puissances de progresser scolairement qui sont plus supérieures à d'autres. Il y a des jeux de différence. Mais une des déterminations qui est donnée à l'école, c'est que il y a une égalité des chances et on vectorise la finalité sur cette égalité universelle. Voilà. Mais il se trouve que d'abord, en ce qui concerne cette égalité, on a un fonctionnement et une organisation qui est structurellement inégalitaire. Donc, entre la déclaration de l'égalité et les réalités de la façon dont elle est organisée, il y a un grand écart qui fait que on peut le rassembler dans une formule. Le collège unique, qui est le collège pour tous, où les élèves sont susceptibles d'être tous mélangés dans la même classe, de fait, au niveau du résultat, nous faisons partie des pays du monde qui forment le plus d'écarts de résultats. Donc d'un côté, il y a une déclaration d'égalité, et de l'autre côté, on se retrouve dans des effets des formations d'inégalité qui sont les plus graves parmi au monde. On est 49e sur 50. On a juste le Chili qui est, de ce point de vue-là, derrière nous. Bon. Donc là, on voit que dans ce pilotage, bon, il faudra peut-être s'en expliquer, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais il faut rentrer dans le fonctionnement pour le comprendre. Il y a un autre vecteur de ce pilotage, c'est l'académisme à la française. C'est-à-dire, il y a une conception de l'excellence, de la culture, qui est comme une sorte de bannière de la France à l'international, tout comme la Révolution française du côté de l'égalité. Donc nous sommes des idéaux de la culture et de l'égalité devant le monde, au regard du monde. Donc ce sont des modalités donc, foncières du pilotage à la française qui conditionnent beaucoup de choses dans la manière dont l'éducation est construite. Illustration, je parlais tout à l'heure de l'égalité, du côté de l'académisme. Il y a un programme unique pour tous les élèves. On vient de faire des classes de niveau. Le but des classes de niveau, c'est que chacun soit sur une marche qui lui permette d'aller le plus haut possible sur cet escalier qui est celui de l'académisme et de l'excellence à la française. Alors, je fais tout de suite une sorte de petite bifurcation pour inviter à des pensées possibles qui soient un peu différentes. Mais sur le plan du savoir, on pourrait imaginer une conception qui soit celle simplement de la foulée possible, du pas, qui peut être pris par un enfant, entre ce que j'appellerais son langage quotidien, chacun a un langage quotidien, et le discours académique. Donc à ce moment-là, on n'est plus dans le vectorisé par l'académisme qui est unique, mais on est dans une conception quasiment d'un Babel des savoirs qui est à construire entre la singularité de l'enfant et le discours scientifique qu'on veut tenir auprès de lui.
Alors on va y revenir.
Et sur l'égalité, juste le pendant, il y a une égalité qui peut être un idéal et qui devient un discours vide devant une diversité des inégalités. Et qu'à ce moment-là, il y a une construction de l'égalité par proportion, C'est-à-dire, je te donne le maximum de ce qui est possible là où tu es. Ça, c'est une égalité républicaine par rapport à la progression de l'élève là où il est et dans ce qu'il peut. Et ce n'est pas une égalité formelle.
Alors, vous avancez effectivement ce point relatif à l'académisme, mais il y a un autre aspect que vous développez, puisque vous dites dans une formule assez forte, l'importation de méthodes de pilotage de l'entreprise est immorale au sein de l'éducation nationale. Alors, on fait comment? Et est-ce que cette phrase signifie qu'il faudrait modifier les relations entre l'éducation nationale et le monde de l'entreprise?
Alors, dans l'explication que j'ai donnée sur académisme et égalité, ce que je reviens un peu là-dessus, puisque j'ai parlé de méthode d'analyse sur les pouvoirs, là, on a affaire à des idéaux, à des concepts, mais dont on voit que ce sont des représentations de ce que j'appelle des pouvoirs qui vont conditionner un rapport à l'apprentissage. Hein. Là, vous me mettez sur une autre voie, qui est celui comme d'une sorte d'amalgame qui s'est formé entre le monde de l'entreprise et les conditions de l'apprentissage, voire l'organisation de ce système qu'est l'éducation nationale. Alors là aussi, dans ce déplacement d'une certaine logique qui est celle de la production dans le monde de l'éducation, il y a effectivement des formations de pouvoir qui se mettent en œuvre, et qui se mettent en œuvre là pour le coup à plusieurs étages. Alors je pense qu'on est en termes d'étages quasiment à la hauteur d'un gratte-ciel de ce point de vue-là, tellement il y en a. Donc je vais être obligé simplement de raccourcir le bâtiment sur simplement quelques étages. Premièrement, par exemple, sur le pilotage d'un établissement, on fonctionne par indicateurs. Ces indicateurs, c'est une culture de l'entreprise qui a été transportée dans le service public, voilà, et qui va se mesurer en termes de performance. C'est inscrit dans la loi des finances, la LOLF, et ça se décline à tous les niveaux de management du système public. Quand on est dans ce type de calcul de la performance par les indicateurs, il faut se demander, formation de pouvoir, si le travail sur l'humain, si la main de l'infirmière sur le malade, c'est quelque chose qui peut se calculer en termes d'indicateurs et de performance. Est-ce que la relation à l'enfant, qui est une finalité sans fin en quelque sorte, par rapport à l'intention de faire progresser, c'est une intention vertueuse, est-ce que ça se calcule en termes d'indicateurs? Voilà un déplacement de formation de pouvoir sur l'éducation. Voilà. Mais je pourrais parler aussi, et c'est encore plus fondamental, j'ai parlé tout à l'heure de l'académisme, on est sorti de la culture humaniste, qui venait du XVIe siècle, dans le rapport au savoir. Le savoir aujourd'hui, il est branché, embrayé sur la dimension de la compétence. Nous sommes, à l'époque, que les auditeurs en soient bien conscients s'ils ont des enfants, qui sont la pédagogie par compétence, dont le savoir n'est que l'outil de la compétence. Et qu'est-ce que c'est que la compétence? C'est un monde qui est un monde économique, qui induit cette évolution des savoirs. Qu'est-ce que c'est que ce monde économique? Ben dans l'organisation du travail, on est dans des situations où, de par des tâches complexes dans lesquelles se trouve le travailleur, et l'évolution des formations des formes de travail, par l'évolution de la technologie, obligé à développer des capacités d'adaptabilité, de transformation de son savoir par rapport à une dynamique de la croissance, qui fait qu'à ce moment-là, le savoir vient en second par rapport à cette compétence qui permet cette employabilité au travail. Voilà. Et donc, vous avez du côté des indicateurs en termes de pilotage ou du côté de la formation des savoirs, un déplacement du monde de l'entreprise et de l'économie sur le système. Et donc, par conséquent, le petit enfant qui apprend à l'école, c'est une sorte de subjectivité entrepreneuriale qui se valorise par rapport à l'acquisition de ses compétences à l'image d'une entreprise à plus grande échelle.
Patrick Coste, je vous propose maintenant de faire une petite pause musicale que je voudrais introduire auprès de nos auditeurs. La partition propose des sonorités puissantes, à la fois percussives et bruitistes, ainsi qu'un piano jazz mélodieux et doux, plus aérien pour plus d'harmonie, marquant le contraste entre l'horreur de la guerre et l'espoir d'un avenir lumineux. L'orchestration se déploie avec une trompette plaintive, mariée à des notes dissonantes pour poursuivre cette double dimension heurtée et apaisée. Nous écoutons et nous vous en disons plus.
D'auteur. Philippe Gilbert.
Patrick Coste, nous venons d'écouter un morceau dont vous pourriez peut-être nous donner le titre.
Oui, c'est un extrait musical qui illustre le film Le Brutaliste. Hein, qui sort aujourd'hui. Hein. Donc vraiment, c'est une musique qui est complètement dans l'actualité. Alors je crois savoir qu'un des musiciens que l'on entend, le batteur, est un Toulousain. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi cet exprès. C'est le batteur, et il s'appelle Antonin Gerbal. Voilà. Et comme il est susceptible d'être oscarisé, ce film, y compris au niveau de la musique, ça méritait l'information.
Voilà, très bien. Alors, je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Patrick Coste pour son livre « L'éducation face à l'impossible, repenser les fondements de l'école ». Nous avons vu, Patrick Coste, les limites du pouvoir installé, ces limites qui ne lui permettent pas finalement d'avoir une emprise sur le réel. Mais dans le raisonnement, vous allez au-delà de cette analyse des pouvoirs et vous dites qu'il y a un autre élément fondamental qu'il faut prendre en compte, qui sont les conditions qui ont fait que l'apprenant s'est transformé. Alors, Patrick Coste, pourriez-vous nous expliquer qu'est-il arrivé à cet apprenant, sachant que il y a des les conditions de l'environnement des apprenants en général, et il y a un problème sous-tendu, une question sous-tendue, qui est la question de l'autorité.
Ah, je vais vous répondre d'abord en revenant en arrière. Vous savez, les pédagogues, ça répète, hein, et puis on va dire que j'ai ça accroché à la peau. Donc, on est bien d'accord, quand j'ai parlé tout à l'heure de l'académisme, de l'égalité, le déplacement d'une organisation et des savoirs sur les logiques de l'entreprise, ce ne sont que des exemples de formation de pouvoir, mais ici, dans cette émission, cela permet de comprendre à quel point les formes d'organisation et de représentation donnent une définition à la façon dont on va interpréter le réel. Donc d'où la nécessité de faire une traversée de ces formations-là, comme de cette croûte, en quelque sorte, pour aller essayer de voir derrière s'il n'y a pas quelque chose de la réalité que l'on a raté. On parlait d'impossibilité, du réel impossible tout à l'heure. Est-ce que précisément, on ne rate pas le réel avec ces formations de pouvoir dont j'ai fait juste là une incise, hein. Alors, on va dire que là, on va rentrer dans une dimension, c'est comme si on ouvrait une fenêtre et que on découvrait la question tout autrement par rapport à l'éducation. Alors, c'est déjà intriguant, ça, de poser les choses comme ça, parce que le point de vue, en ouvrant cette fenêtre, il va se porter non pas sur les enseignants, leur formation, l'institution, les parents d'élèves, leur rôle, etc. Le point de vue va se porter sur l'enfant et l'apprenant. Ça signifie qu'il faut admettre qu'un enfant, c'est pas une sorte de page blanche qui est toujours la même, et que si on l'habille bien, eh bien, dans tous les cas, il va progresser, il va apprendre. Un enfant, il est conditionné, il est inscrit dans des agencements sociaux, dans des réalités économiques, dans des relations familiales. Et l'enfant du Moyen-Âge, l'enfant de l'époque moderne, l'enfant du monde contemporain, il faut admettre que ça n'est pas le même enfant. Voilà. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas dans l'iconographie de représentation l'enfant. Le petit Jésus des Pietà est représenté comme un petit adulte. Mais on n'arrive pas, il n'était pas dans l'art roman représenté comme étant un enfant. Ce qui en dit beaucoup par rapport à la relation à l'enfance. Dans l'époque moderne, quand on était à table, on disait à l'enfant « tu réponds pas à tes parents, on répond pas ». Parce qu'il y avait une autorité qui était posée de telle manière que l'enfant, il était dans une situation de dette, de position seconde par rapport à l'autorité de ses parents. Les choses se sont beaucoup transformées. Voilà. Alors, pour être très synthétique et rapide, on est dans une époque, alors que les auditeurs ne soient pas effrayés par la formule, on est dans une époque où la subjectivité de chacun, que ce soit des adultes et des enfants, sont poussés dans une dynamique qui est celle du plus de jouir. Alors là, je suis obligé de faire un détour. On est dans un monde économique, je parlais d'agencement, hein, entre les subjectivités, l'enfant et ce qui l'entoure et ce qui le conditionne. On est dans un monde qui est celui du toujours plus, de la recherche des profits, de la croissance. L'offre et la demande dans les rapports d'échange sont poussés vers un toujours plus. Et donc, d'une certaine façon, il y a un rapport noué d'homologie, pour employer un bon mot savant, entre cette dimension du toujours plus dans l'économie et la manière dont les subjectivités se forment. Alors donc, on a affaire à des enfants qui sont dans un horizon de désir, qui est celui des satisfactions immédiates, de l'émotion jouée dans les machines, hein, et qui avance dans sa subjectivité avec d'objet en toc à un objet en toc.
Voilà, alors je voudrais citer certaines expressions, certaines formules dont vous avez le secret à ce sujet. Vous dites, à la place du père, il y a l'objet de marque. Et vous ajoutez, le design est aux riches, ce que les baskets sont aux pauvres. Donc ça, c'est l'aspect, effectivement, par rapport à l'unique, presque exclusif objet d'attention des apprenants à l'heure actuelle. Mais vous pointez un autre sujet, vous dites l'école s'est adaptée à l'enfant de l'ère de l'obsolescence, c'est-à-dire à l'enfant à l'attention volatile. Le régime attentionnel est passé de l'approfondissement au superficiel. C'est aussi un autre aspect très important.
Enfin, le déterminant de on va dire de cette obsolescence et de cet effet de où on va nourrir finalement les émotions les plus immédiates, c'est ce mouvement de la consommation qui est poussé par un certain modèle de société qu'il faut bien le désigner par un mot qui est le système capitaliste dont l'équation est de faire toujours plus de profit dans son mouvement et qui exploite la terre mais qui exploite aussi la part de cerveau disponible de l'enfant qui est un marché possible d'exploitation de la consommation et la subjectivité bien entendu se constitue avec cela. Alors c'est ce qui, pour l'illustrer et pour ne pas être trop abstrait, il faut se dire que dans les familles, il y a une organisation des relations qui sont transformées. Je parlais de la famille moderne où il ne fallait pas répondre à table, où là il y avait une position du père symbolique qui fondait cette famille. On est dans une époque où chacun des individus suit sa ligne de désir. Le contrat de mariage, au moins dans certains milieux et de façon de plus en plus répandue, explose devant la poussée de ces lignes de désir de chacun. Et la famille vient se rassembler auprès de celui qui est susceptible de faire durer la communauté, c'est-à-dire l'enfant. La famille éclate. Mais on se rassemble et on porte attention autour de cet enfant dont l'éducation va consister à être au plus près de son épanouissement. Voilà. Et donc entre, si vous voulez, la consommation et ce que j'ai appelé le plus à jouir et cette organisation de la famille qui vient se rassembler autour de l'enfant, ben, il y a un déplacement de la subjectivité qui s'élabore et qui place donc l'enfant dans quelque chose où il est comblé par les satisfactions, par les attentions que portent ses parents, qui sont des parents parfaits, qui robent les conflits, qui viennent en quelque sorte raboter les conflits par rapport dans la relation, et qui viennent gommer le rapport d'autorité de telle manière à être au plus près de l'épanouissement de l'enfant en tant qu'il est un vivant plein d'émotions. Voilà. Et donc là, on a une subjectivité qui se forge, que j'appelle celle de l'enfant épanoui, avec ce concept du plus que jouir que je fais revenir du monde de l'économie, mais que je viens d'illustrer par l'évolution de la famille. Hein. Entre l'enfant du Moyen-Âge, qui n'était pas représenté, et celui de la famille contemporaine, il y a une façon de placer l'enfant qui était absent au centre de toutes les préoccupations des adultes qui l'entourent. Donc, un formidable déplacement. Alors, la question est de savoir, cet apprenant, quand il est à l'école, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, voilà. Et donc, à la lumière de cette problématique, il y a des questions à vous poser. Une fois que vous avez constaté, effectivement, cette mutation de l'apprenant, à savoir comment faire face à la gestion des singularités, finalement, comment construire l'accès à la culture, comment transformer le rapport au maître, puisque, comme vous l'avez décrit, l'apprenant n'est plus dans une position, dans des dispositions et dans un environnement qui lui permette d'accepter les mêmes formes d'autorité que l'on pouvait non seulement apprécier, mais enfin supporter, mais aussi apprécier dans les temps plus anciens. Alors, vous esquissez un certain nombre de pistes pour essayer de résoudre cette problématique. Alors, ces pistes vous tournent autour à la fois du langage et de la proximité. Vous pourriez nous expliquer un petit peu ces deux aspects des choses et en quoi ça peut apporter des solutions réelles. Et ce que j'aimerais bien aussi que vous précisiez, c'est et pourquoi n'y a-t-on pas pensé avant ?
Alors, encore une fois, je fais un pas en arrière pour revenir sur les questions qui sont posées. Pour qu'il y ait apprendre et relation à une autorité, c'est que quoi qu'il en soit, quand on tourne comme on veuille, c'est qu'il y a une dissymétrie entre l'enfant et l'autorité, ou l'enfant et ce qu'il a à apprendre, c'est-à-dire le savoir. Cet enfant que je viens de décrire, de l'enfant épanoui, où on surinterprète son monde des émotions, qui se voue à cultiver ses émotions dans les machines, est un enfant qui est comblé et qui n'a pas besoin, qui n'a pas de demande dissymétrique par rapport à ce qu'il est. Il n'y a rien qui est plus grand que lui, puisqu'il est absolument lui-même dans le comblement de ses émotions et de son plus à jouir. Dans les termes de la psychanalyse, on emploie un bon savant qui est celui de la forclusion, qui veut dire une sorte de situation de fermeture. S'il y a fermeture, il n'y a pas de possibilité d'un dehors dissymétrique. Il n'y a pas de possibilité d'un transfert sur le père symbolique, sur la demande de quelque chose qui est plus grand que ce soit. Élève. Élève. Élève implique que quelque part, on passe du petit au grand. C'est le mouvement consubstantiel à la dimension de l'apprentissage. La forclusion, la fermeture, empêche l'élévation. Alors, pour ma part, et c'est important de le souligner, ce que l'on appelle la crise de l'autorité, c'est pas simplement que les formes de droit, de punition ont disparu, et que donc, par conséquent, il y aurait un ensauvagement de l'enfance. Non. S'il y a une crise de l'autorité, c'est qu'il y a quelque chose qui se structure dans les subjectivités qui fait qu'on a perdu ces dimensions de rapport dissymétrique à la loi, de rapport dissymétrique à l'autorité. Alors, nous sommes devant un problème, parce que s'il y a fermeture et empêchement, il n'y a plus de lien au savoir, le maître n'est plus celui qui permet de faire le véhicule par rapport à ce savoir, il y a quelque chose qui est empêché, ce qui fait que dans une classe, on n'entend plus, et il y a presque un effet d'entropie de ces singularités qui ne pensent qu'à jouir. Voilà. C'est une figure, c'est une image pour donner un peu le paysage, l'ambiance dans laquelle on se trouve. Alors, que faire ? Que faire ? Si on est sur les répétitions de pouvoir et les techniques qui sont les nôtres, dont j'ai donné quelques incises tout à l'heure, décrites, il y a quelque chose qui patine, et qui ne répond pas à ce réel. Et c'est une des explications qui permet de comprendre que le réformisme peint gris sur les murs de l'école et n'arrive pas à répondre aux situations. Bon. Donc, comment faire ? Pour retrouver de la dissymétrie, il faut de la proximité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas comme une sorte d'effet de contact entre un sachant et un qui ne sait pas, et que quelque part il y a une sorte de confrontation des corps, des possibles, des jeux de langage entre des deux puissances qui viennent faire un intervalle de ce qui peut passer de l'un à l'autre, si on n'a pas si on n'habite pas cet intervalle dans la proximité, on se retrouve en situation de ne plus pouvoir recréer les conditions de cette dissymétrie. C'est pour ça que je développe un concept que j'appelle la zone du développement proximal, qui est un concept qui me vient d'un pédagogue qui s'appelle Vygotsky, qui était un soviétique des années 30, voilà, mais que je redéploie dans une conception contemporaine. Et donc à ce moment-là, pour donner une métaphore, on se retrouve quasiment dans la situation du maître d'armes dans l'escrime. Hein, c'est-à-dire que le maître d'armes, il est susceptible de toucher l'élève, l'élève est obligé de se mettre en garde, de trouver les bonnes figures, et donc il y a une sorte de jeu dans le corps à corps du savoir et de celui qui ne sait pas, qui permet de recréer des conditions dissymétriques. J'aurais envie de dire que là où nous en sommes, de tout ce que nous avons détruit de la dissymétrie, par tout ce que j'ai expliqué lors de cette émission, la pédagogie de la proximité est une pédagogie quasi thérapeutique et réparatrice par rapport aux dérives dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Alors, Ensuite, je ne suis pas un idéaliste complètement dystopique, ne croyez pas. J'ai été formateur des agents comptables, je sais que derrière des organisations, il y a des budgets, il y a il y a évidemment des conditions pratiques qu'il faut respecter. Donc j'ai passé j'ai mis la limite de cette pédagogie de la proximité dans mes propositions à des groupes de 15 élèves. Et j'ai un chapitre où je fais les comptes. Comment on peut arriver au niveau national, budgétairement, à mettre en place des groupes à 15 dans ce système sans que ça vienne effondrer encore davantage la situation budgétaire dans laquelle on est dans ce pays. Hein, donc une volonté très pratico-pratique et réaliste par rapport à ça. Mais ce que je voudrais indiquer, c'est que sur ce groupe de 15, il y a une possibilité de partage entre les élèves qui fait qu'il y a des phénomènes de collaboration, il y a des expériences de l'injustice qui fait que l'apprentissage de la loi passe par un vécu, des rapports dissymétriques qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Et c'est un constructivisme de la proximité dans l'intervalle des possibles qui se fait dans cette petite communauté. La République, pour revenir à mes formulations du début, qui est celle de l'égalité comme un idéal. Dans ce monde des singularités, dans ce monde des élèves qui sont tous des exceptions, dans les plus à jouir, nous risquons que cette République devienne un temple vide, que l'égalité formelle soit un temple. Le collège unique est un discours. Il n'est plus une réalité. Donc, pour revenir à la construction d'un partage égal, c'est un partage des possibles, des proportions entre les uns et les autres, que ce soit vis-à-vis du maître, que ce soit vis-à-vis entre les élèves. Alors, ça implique que sur le plan du savoir, pour revenir, pour répéter là aussi un circuit dans ce que j'ai expliqué lors de cette émission, l'académisme de l'excellence unifié ne répond pas à cette diversité et à ce Babel des singularités dans lesquelles on se trouve dans une classe. Donc en quelque sorte, ça place l'enseignant, non pas simplement celui qui va amener l'élève dans l'académisme le plus haut, mais celui qui va essayer d'habiter le rapport entre la langue quotidienne de l'élève et la médiation qu'il peut apporter par rapport, lui, à sa capacité de développer une langue plus riche.
Alors Patrick Coste, en vous écoutant, on aurait tendance à être presque optimiste pour la suite. Je voudrais vous poser une question, puisqu'effectivement, vous passez dans les livres par une analyse, vous faites des propositions. La question qui se pose, c'est de dire, mais comment faire pour amorcer la mise en œuvre de solutions telles que vous les décrivez? Et donc, j'ai envie de vous poser cette question. Et si la ministre de l'Éducation vous posait la question, quelle est la première mesure à prendre dans ce domaine? Que lui répondriez-vous?
Combien de temps il me reste pour répondre à cette question?
Moins d'une minute.
Moins d'une minute, waouh! Alors bon, réponse du tac au tac. Hein. Je veux dire, il est clair que ce qu'il faut faire le plus rapidement possible, quitte à modifier l'organisation et les fonctionnements, c'est la réduction des effectifs dans les classes. Ça, c'est la première réponse. Ensuite, comment en arriver là? Ça, c'est extrêmement compliqué. C'est la question du que faire, hein, quand on veut transformer un système qui est un système très complexe, qui est sédimenté par tout un héritage, en quelque sorte, des pratiques. Il y a une fatigue chez les enseignants. Il y a des résistances. Il y a des contournements à l'orthodoxie de ce qu'on leur demande. Dans ces résistances, il y a quelque chose qui est à entendre. Et il faudrait que les enseignants expriment cette pénibilité, parce que c'est aussi comme ça qu'ils interpellent ces fameux pouvoirs dont je parlais dans la première partie de l'émission. Il y a des rapports de force. Hein. Alors, le président de la République, en 2022, fait une fameuse conférence à la Sorbonne devant l'ensemble des recteurs, où il désigne que le système éducatif doit passer par une révolution copernicienne. Alors, je ne pense pas que le président, sur ses frêles épaules, soit capable de la révolution copernicienne. Il y faut des jeux de tension et de transformation à l'issue de ces tensions-là, où nous sommes tous responsables pour faire avancer d'un pas.
Merci infiniment, Patrick Coste. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « L'éducation face à l'impossible, repenser les fondements de l'école », paru en cette année, hein, 2025, aux éditions Delga. Ouais. Merci beaucoup à la technique, sous le haut contrôle de Christophe Aubry. Merci à vous, chers auditeurs, et bonne lecture à tous.